C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
C'est un sujet délicat quand on lit, entre autres, de Gazette. On s'aperçoit à quel point il y a, disons, une réaction de haute sensibilité parce que la loi 101 a été modifiée par la loi 96. C'est la nouvelle mouture. C'est en vigueur depuis le 1er juin. Et les anglophones qui veulent communiquer avec le gouvernement, avec la ville de Montréal, entre autres, doivent confirmer, jurer qu'ils sont anglophones pour continuer d'observer, d'obtenir, pardon, les services dans la langue anglaise. Est-ce que ça va trop loin, Luc?
C'est ridicule, c'est inutile, puis ça va faire dérailler la crédibilité de la loi 96, puis même la crédibilité, toute la crédibilité de francisation. C'est pas de même qu'il faut s'y prendre, j'en suis persuadé, tu sais. D'ailleurs, Côte-Saint-Luc, a mis les rieurs de son côté. Vous avez vu ça, là, le message d'accueil de Côte-Saint-Luc qui dit ici, vous n'avez pas besoin de montrer votre arbre généalogique de la 12e génération pour savoir dans quelle langue vous allez être servi, etc. Le House Father qui représente, c'est le seul candidat qui a voté contre la loi sur les langues officielles, qui a voté contre.
Au fédéral.
C'est lui qui représente Côte-Saint-Luc. Fait que c'est une coterie, là. Il représente Côte-Saint-Luc, Ville-Mont-Royal, Hampstead. Le comté s'appelle Ville-Mont-Royal. Donc, la loi dit quoi? La loi dit les services, des bureaux de permis de conduire aux bureaux de permis municipaux, en passant par les centres d'hébergement et de soins de longue durée, a l'obligation identique d'utiliser exclusivement le français dans les communications écrites et orales avec les clients. Ça, c'est ce que dit la loi. Maintenant, ce qu'a été la mise en œuvre de la loi, ça dit que la législation t'oblige à attester de bonne foi quand t'appelles que tu es un anglophone. Et puis là, il y a des catégories, là, tu sais, que tu une personne appartenant ou non à l'un des groupes d'exception, les situations qui concernent la santé ou la sécurité publique sont exclues, etc. Fait que si t'as habité, si t'as parlé le français, l'anglais avant 2021, si t'es un anglais d'origine anglaise, ben là, tu peux parler en anglais, sinon, tu dois parler en français. C'est tellement ridicule. Des lois, un règlement pour être utile, il faut qu'il soit applicable. Là, il est inapplicable. Il y a trop d'exceptions. Ça ne fonctionnera pas. Il y a deux possibilités. Soit tu l'imposes en français. Tu dis, regarde, c'est en français seulement. Lorsque tu appelles, ou alors tu pourrais peut-être dire, je l'appelle en français seulement, sauf dans des municipalités dites bilingues. Les municipalités dites bilingues, là, il y en a 90 au Québec. Puis bizarrement, dans la loi 96, on reconnaît le droit d'être bilingue sur simple déclaration du conseil. Comment ça se fait, ça? Tu as 90 municipalités où il y a moins de 50% dans certains cas de francophones, d'anglophones. T'as atteint un 50% et moins d'anglophones parce que les municipalités anglophones, il y a de moins en moins d'anglophones dans certains endroits du Québec, notamment en Estrie. Et là, tu dis, mais vous avez quand même le droit d'être bilingue. Il faut juste avoir une déclaration du conseil. Moi, je ferais tout le contraire. Je dirais, si tu es une municipalité bilingue, tu as le droit d'avoir des services bilingues. Mais pour être bilingue, par exemple, il faut que tu démontres que tu as plus de 50%. Ça va faire quoi? Ça va faire que des enclaves comme Hampstead et Côte-Saint-Luc vont avoir le droit de parler en anglais. So what? On s'en fout de Côte-Saint-Luc et d'Hampstead. Ce sont des enclaves. De toute manière, la capacité d'intégration des nouveaux arrivants là-bas, c'est 0.0 parce que le coût du logement est trop élevé. Il faut au contraire. Puis ça va changer. Faut amener les immigrants à Rosemont. Faut construire du logement dans les quartiers francophones, là où ils vont vivre en français. Puis il faut laisser les enclaves anglophones tranquilles.
Ben Luc, au qualificatif que tu as utilisé, j'ajouterais délire et absurdité. Absurdité parce que compliqué à vérifier. Tu sais, c'est bien la première fois dans l'histoire du Québec. Même le Parti québécois, là, le père de la loi 101, n'a jamais osé aller aussi loin. C'est la première fois qu'on demande à un anglophone de prouver qu'il est bien anglophone. Alors ça, c'est difficile à vérifier. Et absurdité également parce que le Québec régresse, selon moi, par rapport à ses relations avec les minorités. On a l'air d'une bande d'intégristes. Et là-dessus, Luc et moi, on est d'accord parce que, effectivement, cette disposition de la loi 96 va beaucoup trop loin. D'ailleurs, ça m'étonne qu'elle ne soit pas encore contestée devant les tribunaux. Peut-être que ça arrivera. La CAQ semble faire fi du fait que les anglophones minoritaires au Québec, il y a 13% de personnes anglophones sur l'île de Montréal, un peu plus de 8% au Québec, la CAQ semble faire fi et oublier que cette minorité a des droits. Des droits consentis, entre autres, par la charte de la langue française. Et dans cette charte, dans son préambule, on dit, puis vous me permettrez de le citer, on dit que la charte de la langue française devrait être adoptée ou doit être adoptée dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l'apport précieux au développement du Québec. On ne peut pas nier l'histoire. On ne peut pas nier le passé. Je comprends que politiquement, ça fait bien de mater la vilaine minorité anglophone qui, selon la CAQ, est responsable de tous nos maux, entre autres sur l'île de Montréal. Mais en même temps, je pense qu'il faut garder un discours et une approche équilibrée en la matière. Pourquoi? Parce que tu l'as dit, Luc, ça contribue à décrédibiliser cette loi et l'approche du Québec en matière de protection des droits des minorités. Remarquez que c'est tout à fait légitime pour un gouvernement, pour le gouvernement du Québec, peu importe sa couleur, de modifier la loi qui permet aux Français d'être en meilleure posture. Mais il y a des façons de le faire qui doivent nous permettre de conserver notre crédibilité en la matière, ce qui n'est pas le cas, selon moi.
Il faut se rappeler que la loi 96, elle ne veut pas faire les gros gestes que certains demandaient pour vraiment mettre fin au déclin du français. Dans ces gestes-là, il y a, par exemple, de faire que les cégeps anglophones ne reçoivent que le nombre d'étudiants correspondant au pourcentage de la population anglophone, qui serait autour de 18%. Mais maintenant, c'est 50% à Montréal. Il ne veut pas aller là. La loi 96 ne veut pas aller là. D'accord. Fait que là, elle dit, on va frapper plus fort ailleurs. Et en frappant plus fort ailleurs, c'est quoi? C'est la langue d'affichage. Là, elle a obtenu avec la loi sur la loi fédérale sur les langues officielles que les entreprises à charte fédérale vont devoir dorénavant se conformer à la protection du français sur les lieux de travail. C'est très gros. Il y a la langue d'affichage public qui va être encore renforcée. Fait qu'elle prend toutes sortes de petites mesures comme ça pour dire, moi, je ne vois pas sur les grosses affaires, mais je vais aller sur les petites affaires. Puis certaines ne sont pas si petites que ça, là, mais comme par exemple celle-là là, sur le service en français, l'obligation de communiquer avec le gouvernement en français, l'obligation de traduire les jugements en français lorsqu'il y a un jugement en cours.
Et moi, je me suis demandé, en regardant ça, la question suivante. OK. Ils vont faire quoi? Ils vont vérifier si la personne est vraiment une anglophone ou pas selon les critères. Puis il y a plein de critères d'exception, là, entre autres les nouveaux arrivants qui sont ici depuis moins de 6 mois, qui parlent pas français, peuvent avoir accès. Bon. Mais là, ils vont vérifier, ils vont avoir une enquête aléatoire, on va t'envoyer de la documentation en français.
Zéro.
J'essaie juste de voir comment tu vas...
Mais d'autant plus qu'il y a une exception inscrite dans la loi qui dit que pour certains services jugés nécessaires à la sécurité publique ou à la santé, tu es obligé de communiquer dans la langue demandée, en anglais notamment, et que même Montréal va faire ça. Montréal, puis là-dedans, tu mets quoi dans la sécurité?
Mais c'est-tu quoi? Je sais pas ce que Nathalie en pense. Ça vient renforcer toutes les faussetés qu'on a entendues. Là, ils vont dire, ah, t'es pas un vrai anglophone, donc tu pourras pas te faire soigner en anglais. T'es pas un vrai anglophone, on va te raccrocher au 911 si t'appelles puis que tu parles anglais parce que c'est ça qu'on va commencer à entendre comme message, moi, je trouve.
Absolument. Absolument.
Ben en fait, ça renforce ce que je disais tout à l'heure. On régresse par rapport à nos relations avec les minorités. Puis Paul, si tu penses que les villes et les municipalités, les arrondissements dits bilingues vont commencer à vérifier, t'es-tu un vrai anglo ou t'es pas un vrai anglo? Hey, écoute, tu rêves en couleur, là. Il n'y a pas personne qui va perdre son temps avec ça. D'ailleurs, quelle était la réponse à la mairesse de Montréal? Si le gouvernement veut nous envoyer des inspecteurs pour vérifier effectivement si c'est bien les anglophones, ben grand bien leur fasse, là. Mais c'est pas ce qui va arriver. Oublie ça, ils perdront pas leur temps avec ça. Oublie ça.
Moi, je réinsiste sur l'urbanisme. Là. Si tu construis des logements dans Rosemont, les gens vont finir par parler français. Si tu construis des logements dans Côte-des-Neiges, c'est pas mal moins sûr. Si tu construis des logements dans
Hampstead,
c'est fini. Fait que, la façon dont on te répond au téléphone, là-dedans, pèse pas lourd.
Au retour de la pause, le deuxième sujet. La députée de Bonaventure a perdu ses responsabilités parce que son conjoint est maire puis préfet également de la région. Et est-ce que c'est justifié, donc, toute la notion de conflit d'intérêts quand on est en couple et en politique?
La commission Normando-Ferrandaise.
On a vu cette nouvelle qui est tombée, la députée de la CAQ de Bonaventure qui s'est faite retirer ses responsabilités parce que son conjoint est maire et préfet de comté. La question qu'on pose ce matin, est-ce que c'est justifié? Puis comment on fait pour concilier le travail quand les deux conjoints œuvrent en politique ou potentiellement peuvent être en conflit d'intérêts? Nathalie.
Vous savez, il y a des nouvelles qui ne passent pas. Ben pour moi, celle-là en fait partie. Je suis outrée par cette décision. La députée, c'est Catherine Blouin. Elle a été élue là à la dernière élection générale. C'est une décision qui est immensément triste. Un, pour les citoyens du comté de Bonaventure, c'est une première en passant dans l'histoire du comté. Et puis, connaissant tous ces citoyens que j'ai représentés pendant 13 ans, ils vont s'en rappeler très, très longtemps. Donc, une décision méprisante à leur endroit. À l'endroit également des maires, et méprisante aussi pour la députée. Moi, je comprends que François Legault, un, n'a pas confiance en sa députée et doute de son intégrité. Et je vous dis ça parce qu'il y a un double standard qui existe au sein de la CAQ. Il y a une autre députée qui est dans la même situation que Catherine Blouin. Elle s'appelle Agnès Grondin, députée d'Argenteuil. Elle est confrontée à la même situation. Son conjoint est maire du canton de Gore et préfet d'Argenteuil. Alors, lorsque le journaliste a demandé à la CAQ, ben, qu'est-ce qui se passe avec Mme Grondin? Silence radio, bruit de criquet. Écoute, absolument aucune réponse. Alors, tu dis, ben voyons, pourquoi ce deux poids, deux mesures. Et la députée Catherine Blouin a fait les choses dans les règles de l'art. Depuis qu'elle est élue, elle a demandé avis à la commissaire à l'éthique. Elle suit la recommandation qui lui a été formulée pour éviter justement qu'il y ait une apparence de conflit d'intérêts. Savez-vous ce qui me fâche? Là, je parle du double standard avec la députée d'Argenteuil, mais parlons de notre cher Pierre Fitzgibbon, le ministre qui a fait l'objet de 6 enquêtes de la commissaire à l'éthique. Est-ce que François Legault lui a retiré des responsabilités? Aucune, non seulement il lui a retiré aucune responsabilité, mais il lui a ajouté à l'économie le ministère de l'économie pour en faire un super ministre. Alors moi, c'est le genre de nouvelle qui me fait sortir de mes gonds. Je suis ce matin là scandalisée par cette nouvelle publiée par TVA, Journal de Québec et de Montréal. Vraiment là, j'en reviens.
Moi, je suis pas d'accord du tout. J'ai le point de vue exactement inverse. C'est la commissaire à l'éthique qui a fait la recommandation. C'est pas Legault, puis la commissaire à l'éthique. Legault a respecté la recommandation de la commissaire à l'éthique. La députée d'Argenteuil, la commissaire à l'éthique, est en train de prendre acte. Quand elle va faire sa recommandation, le premier ministre va sans doute aller dans le même sens. Puis c'est ce qui s'est passé avec Fitzgibbon aussi. Avec Fitzgibbon, ils ont respecté les recommandations de la commissaire à l'éthique. Fait que finalement, c'est la commissaire à l'éthique qui a pris la décision, Nathalie.
Ouais, mais écoute, si c'est la commissaire à l'éthique qui a pris la décision, ben ça, c'est pas ce que l'article nous laisse entendre, parce que au caucus, au bureau du premier ministre, M. Legault, on semble nous dire que on lui a retiré pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt, alors que il y a une députée qui vit la même situation qu'elle. Est-ce que la députée d'Argenteuil s'est adressée aussi à la commissaire à l'éthique?
Écoute, j'aurais tort s'il y a une décision séparée pour la députée d'Argenteuil, mais je pense que la même chose va lui arriver. Puis là, l'affaire, c'est qu'ils ont fait... Elle va devoir se référer aux députés de la Côte-Nord. Ça, c'est amusant.
Ben oui,
quand même.
Ben
ça,
oui. C'est 265 kilomètres ouais. Du comté de Bonaventure.
Mais,
ouais.
mais en même temps, c'est quoi les sommes en cause? Là? Tiens, il y a les sommes, il y a les montants dérogatoires, l'enveloppe dérogatoire. Là, l'avant, c'était 10 millions. Pendant la pandémie, c'était 30 millions pour tous les députés, l'ensemble des députés du Québec. Et c'est retombé à combien, on ne sait pas. Mais toujours est-il que, mettons là que c'est autour de 20 millions pour 125 députés, les enveloppes dérogatoires... C'est rien, c'est du screening. Puis l'autre affaire, c'est le fonds vert. Mais le fonds vert vient d'être aboli au 31 mars. Puis ça, c'est un fonds de 8 millions. Fait que sur ces décisions-là, la députée aurait pu avoir un peu d'influence. Mais c'est pas là-dessus que se porte la grosse influence. La grosse influence, c'est où vont être les maisons des aînés, où vont être les routes, où vont être les CPE, où vont être les écoles et où va être le logement. Et puis c'est là que il pourrait y avoir des discussions sur l'oreiller, à mon avis. Et là, ça passe plus facilement, là, parce que c'est des décisions de l'État, c'est pas des décisions de la députée, c'est des décisions de l'État. On l'a vu avec les maisons des aînés. Dans le cas des maisons des aînés, par miracle, le député péquiste Bérubé avait la population la plus vieille, puis il n'y a pas eu de maison des aînés, alors que des régions comme Mirabel, Hall, Les Plaines, Jean Talon, avec un âge médian de 38 ans, qui ont eu des maisons des aînés. C'est là, à mon avis, qu'il y a le beef, comme disent les Anglais.
Moi, Luc, où j'ai un doute, puis il faudra le vérifier, là, c'est que l'avis produit par la commissaire à l'éthique n'a pas été rendu public.
Ah.
Alors, ce qui me laisse croire que la décision de lui retirer toutes ses responsabilités est une décision prise par le bureau du premier ministre.
Ah, ben écoute,
Mais je sais pas, Luc, je sais pas. Écoute, là, tu sèmes un doute dans mon esprit, puis je sème un doute dans le tien.
Oui,
alors,
c'est ça.
Bon, OK, mais n'empêche qu'il faut retenir, dans le fond, c'est que le prix à payer pour faire de la politique. Quand ton conjoint est maire, par exemple, est démesuré, parce que pour moi, c'est démesuré, cette décision. Écoutez, elle perd les responsabilités de Carleton-sur-Mer. Là, son conjoint est maire de cette ville. Elle perd la responsabilité d'une MRC sur deux. Parce qu'il y a deux MRC dans Bonaventure, la MRC d'Avignon, la MRC Bonaventure. Et puisque Carleton-sur-Mer est dans la MRC d'Avignon, elle perd la responsabilité de la MRC d'Avignon. Et là, elle se fait rassurante, la députée, en disant, ben, écoutez, je vais continuer de servir les citoyens.
Ouais.
Hey, moi, je trouve que je vous le dis, là, j'ai été députée pendant 13 ans dans ce comté-là. Là. Si on m'avait fait un coup pareil, là, je pense que j'aurais démissionné.
Démissionné.
J'aurais démissionné parce que je trouve que c'est... On peut trouver des aménagements pour éviter qu'il y ait conflit d'intérêts. Et puis là, je vais aller plus loin. Il y a deux couples de ministres au Conseil des ministres, OK? Pierre Fitzgibbon avec Isabelle Charest et, selon ce que j'en sais, Geneviève Guilbeault avec Mathieu Lacombe. Est-ce que le premier ministre a demandé à ces quatre ministres de se comporter... est-ce qu'on leur a imposé certains standards sur le plan éthique pour s'assurer qu'il n'y ait pas... que certaines frontières ne soient pas traversées? Je dis ça comme ça, je sais pas, là, je réfléchis à voix haute.
On sent que tu réfléchis à voix haute avec une voix fâchée.
non, mais j'ai une relation, moi, je vais vous le dire bien, candidement, j'ai une relation avec un député de l'opposition, une relation qui était connue du grand public. Ben, je me suis comportée pour éviter qu'il y ait apparence de conflit d'intérêts. D'ailleurs, je lui ai dit, si tu as besoin d'aide dans ton comté, là, c'est pas moi qui va traiter la demande. C'est quelqu'un
mais
qui va traiter ta demande.
Mais le chef a dû quand même sursauter un peu. T'sais, tu dis, deux ministres dans le même gouvernement, OK, mais ma ministre avec un député de l'opposition.
À l'époque, tu parles?
Ouais.
Ah ben non, mais moi, je me suis confié à M. Charest, évidemment. Je lui ai demandé s'il avait un problème avec ça. Mais j'ai pas de problème avec ça. Mais on s'est gouverné tous les deux en conséquence. Là.
On va juste mettre le micro dans la chambre à coucher.
Il me confiait pas ses secrets de caucus et moi, j'y confiais pas mes secrets du Conseil des ministres. Là. Mais est-ce qu'on parlait politique? Assurément, on parlait politique. C'était notre métier, puis on aime ça, parler politique. C'est ce qu'on faisait dans la vie. Il fait encore ce métier-là, d'ailleurs. Et je parle de François Bonnardel, vous l'aurez compris. Pour ceux qui ne le savaient pas. Là, on est plus dans le domaine du potin, on s'entend. Non, mais moi, je suis vraiment... si c'est effectivement une décision de la commissaire, ce serait bien, Luc, dans le fond, que la commissaire, que cet avis soit rendu public.
Oui.
Peut-être que c'est possible ou non, je n'en sais trop rien. Là, les choses seraient un peu plus claires. Mais ma première réaction en voyant cette nouvelle, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est un désaveu à l'endroit de cette députée. On lui fait confiance, on ne lui fait pas confiance.
Merci à tous les deux, on vous retrouve demain.
C'est 23.